J'ai tout fait pour de vrai, là, à part restaurant. Serveuse, je me suis fait mettre dehors après 2 semaines. Ça, c'était le TDA, je sais, ça marchait pas.
C'est sûr qu'il me serait arrivé la même chose, j'aurais tellement brisé de choses.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 31. Il était une fois les petites neurodivertissantes.
Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Allô les filles, comment ça va?
Allô, ça va et toi?
Ça va, Mélissa, tout va bien?
Salut, oui, ça va, ça va. J'ai un cerveau un peu en mode de niaiserie aujourd'hui, fait que je sais pas ce que ça va donner. Ça risque d'être peut-être pas, à voir.
En mode taquine.
Oui, c'est ça, je me sens taquine, exactement.
Aujourd'hui, on a décidé de parler, en fait, de répondre à certains messages qu'on a eus en privé. Donc, vous nous avez posé des questions, vous nous avez fait part de votre cheminement, et puis, ben plein de choses. Fait qu'on a décidé qu'on allait interagir publiquement avec ces commentaires-là.
On se sent choyé parce qu'on reçoit tellement des messages avec... On sent la confiance. Les gens nous déposent vraiment leurs sentiments, leur vécu dans leur cheminement, puis de me dire que moi, ça résonne pour moi quand je le lis, que vous, quand vous nous entendez, ça résonne pour vous, c'est beau.
Oui. Mais on aime vraiment ça, sérieusement, c'est hallucinant comment est-ce que chaque fois que vous nous écrivez, on se reconnaît, puis ben, on imagine que c'est vice-versa quand nous on parle, mais c'est vraiment trippant.
Mm-hmm. Ouais, le dialogue commence à s'installer.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, c'est quasiment le bout qu'on préfère. Fait que c'est ça, il y en a beaucoup d'autres qui nous parlaient de leur cheminement puis de leur questionnement suite au diagnostic, de qu'est-ce qui les a menés au diagnostic aussi, ou à la confirmation, hein, ça peut être la douance également. Donc, on a décidé que c'est un beau sujet, on nous l'a suggéré, puis on a fait « Ah ben oui, c'est vrai, ça serait intéressant ». Fait que c'est ça. Donc, on va vous parler de nos profils, de ce qu'on voulait faire quand on serait grande, puis des choses comme ça. Okay. Qui veut se lancer?
C'est bien stressant tout ça. C'est comme du... j'ai l'impression qu'on va se redévoiler, se mettre à nu, encore une fois, audio oui. Parlant.
On en avait un petit peu parlé dans le premier épisode, mais tu sais, vraiment en grand survol. Mais peut-être qu'on peut adresser la première question qui revient souvent. Puis, on en avait parlé dans le premier épisode, mais je pense que ça... Comme ça revient, je me suis dit, on va en reparler.
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui qu'on a déjà discutées dans nos épisodes. C'est juste, c'est un espèce de résumé. Parce que t'avais calculé, mais ça, puis il y avait comme... Ça retouchait genre 12 épisodes. sur 20 quelques. Fait que, tu sais, quand même. Là.
C'est ça, on peut les lister pour refaire une genre de playlist de peaufinement par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, si quelqu'un se pose des questionnements puis il peut pas écouter les 30, fait que ça en fait le 12 au lieu de 30
pour ben, c'est ça.
Attaquer
on le fera
une question particulière. Fait qu'on va les écrire, mais sinon, il y a une question qui revenait souvent par rapport à nos évaluations puis nos diagnostics.
Oui.
Puis on s'est posé la question avant d'enregistrer puis de savoir... tu sais, bon, ben exactement, est-ce qu'on change notre position sur le sujet ou pas? Puis la réponse était que non.
Oui, parce que là, jusqu'à maintenant, vous deux, donc Mélissa et Fran, vous avez choisi de vous dévoiler comme étant neurodivergente et non pas selon les diagnostics et ou confirmations que vous pourriez avoir. Donc, et là, vous êtes questionné ce matin sur est-ce que vous changez votre épaule, changez le fusil d'épaule ou quoi?
En sachant que, un, nos cheminements font que nos positions ont évolué potentiellement par rapport à ça. Deux, que de nombreux indices sont essaimés à travers les différents épisodes. Mais il reste qu'on s'est posé la question de on en est où aujourd'hui après plusieurs mois de podcast à vous partager notre vécu neurodivergent, puis aussi dans nos cheminements personnels, là, outre le podcast, ça a été des étapes et des ressentis là, à processer. Là. Puis Mélissa, je pense que je t'avais peut-être interrompu, tu étais sur ta lancée à ce sujet.
Oui, excuse-moi.
Ben non, c'est correct. T'sais, dans le fond, j'avais comme volé le punch de non, on n'a pas vraiment changé de position. J'avais juste dit non, mais...
non, ferme la question. OK, bye, next question.
non, mais je m'attendais à ce que tu continues à l'expliquer, Fran, parce que je trouvais que... Des fois, t'as tellement juste les bons mots, là.
Ah, oh, merci. Oh, bah, excusez, je viens de m'avoir des flashbacks de niaiserie. Ça pour dire que si on revient sur nos profils, ben oui, non, mais on a cheminé effectivement, puis on peut en parler rendu là. Est-ce que vous vouliez que je me lance?
Ben oui, vas-y.
Parfait. Tant qu'à avoir un début un petit peu chaotique, là, on peut essayer de reprendre le tout. Dans le fond, moi, c'est ça, j'ai tout le temps dit que je préférais l'étiquette, en gros guillemets, neurodivergente, parce que ça me permettait de faire cohabiter mes différents diagnostics, parce que je trouvais que d'avoir des diagnostics ou confirmations côte à côte, comme juxtaposés en silo, c'était pas représentatif de comment je me sentais. Donc, d'avoir le mot neurodivergente, pour moi, c'est comme de considérer tous les gradateurs de tous mes traits et ou diagnostics, confirmations, etc., et de les laisser interagir ensemble d'une manière qui est pas comme discriminatoire entre les différents traits. Parce que j'ai vraiment longtemps cherché à trouver mes étiquettes, puis pour vous faire une petite chronologie, ça fait des années, là, depuis que je suis enfant, qu'on soupçonnait qu'il y avait un profil différent, mais ça fait depuis peut-être mon cégep que je vois à quel point cette préoccupation-là de me comprendre m'habite. C'est parce que ça fait du sens aussi, parce que c'est au cégep que ma vie a crashé vu que j'avais plus aucun encadrement.
Ouais, puis juste pour peut-être spécifier que le cégep, c'est ce qui entre le secondaire et l'université au Québec.
Mm-hmm. Oui. Puis pour la mise en contexte, c'est qu'au secondaire, j'étais au programme international, j'avais quand même des stimulations, j'avais beaucoup d'encadrement, beaucoup de projets, il y avait énormément de livrables à fournir, on était tenus de près, tu sais, par le système scolaire, les profs, etc. Puis arrive le cégep où on me dit que j'ai droit jusqu'à 15% d'absence, que je suis super autonome, puis que je m'autogère dans mon organisation. Pire scénario possible. Mélissa semble compatir beaucoup, vas-y.
Non, mais je trouve ça drôle parce qu'on n'en a jamais parlé de ça. Puis je suis comme, dans ma tête, je suis comme Twinsies, parce que j'ai fait un programme international, c'était rigoureux, tout, tu sais, c'était du stock, là. Puis après ça, rendu au cégep, ça a été la même chose, ça a été comme, ah ouais, c'est free for all! Changer de groupe d'amis, changer de tout, ça a juste fait que, c'est ça, le cégep n'était pas assez encadrant pour ma réussite scolaire à ce moment-là.
Ah, moi, ça a pas été ça. Mais, tu sais, premièrement, j'avais quitté le programme enrichi au secondaire parce que mon trichait trop en enrichi.
Ah ouais?
J'avais décidé... Oh, oui, ça trichait à mort en enrichi. Oh, fait que... fait que j'avais décidé que moi, ça me tentait pas, que je voulais travailler. Fait que je suis allée en régulier. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé en régulier. Fait que... Mais j'étais quand même dans une école privée, donc c'était relativement encadré, même chose. Puis, mais au cégep, non, moi, c'était un groupe, on était... c'était un groupe à la limite fusionnel, on était toujours ensemble, on faisait tous nos travaux ensemble, fait que c'était bien encadré dans un sens. C'est juste qu'on faisait beaucoup la fête, fait que je dormais pas beaucoup, puis je vivais de café. mais le cégep a été une période difficile pour d'autres raisons. Moi, c'est personnel, c'est ma vie personnelle, ma vie familiale qui a été vraiment dure au cégep. Et c'est là que j'ai rencontré quelque chose d'absolument effroyable, c'est l'échec à l'école. J'ai coulé un cours au cégep, puis ils m'ont dit que ça a été tough, mais c'est pas pour les mêmes raisons que vous autres. Moi, j'étais bien encadrée quand même.
Je te dirais que, parce que dans ma tête, va à pleine place, en même temps, je réalise à quel point les impacts des sphères de vie, tu sais, on en parlait dans le dernier épisode, je pense, où on disait que ça vient impacter hautement nos performances. Moi, puis là, je reviens au cégep. Le cégep, j'ai pas nécessairement eu des mauvaises notes, c'est juste que, pour vrai, j'étais tout le temps éparpillée, j'étais en retard, j'avais de la difficulté à me présenter à mes cours, puis pour l'anecdote vraiment cocasse dans la vie, parce que j'étais en retard pour choisir mes choix de cours, j'ai hérité du dernier choix de cours d'éducation physique possible, qui était le cours de relaxation. Vous me voyez pas, cher auditoire, mais vous entendez souvent parler de moi qui bouge, je vous confirme que j'ai coulé le cours de relaxation. Entre autres, à cause de ma non-compétence à la technique et aussi parce que j'ai débordé de mon 15% d'absence. Donc, regarde, c'était vraiment une drôle de période, le cégep. Puis, d'ailleurs, ça me fait écho à une question qu'on avait reçue à un moment donné. Quelqu'un nous avait demandé, un professeur qui nous a marqué. Ben moi, un premier professeur qui est venu me percuter vraiment, c'est au cégep, justement. Il s'appelait Guy Bourbonnais. Puis Guy, je me suis arrangée pour tout l'avoir dans tous les cours de tronc commun que je pouvais parce que... puis là, props à Guy, allô, qui se souvient peut-être pas de moi. Mais c'est juste qu'il me laissait beaucoup de latitude. Puis il m'avait comme dit que tant que j'étais à mon affaire, que je fournissais dans les travaux, il n'en avait pas vraiment de soucis par rapport à ma présence physique dans le cours. Mm-hmm. Et finalement, j'ai eu plus de discussions avec ce prof-là en aparté du cours. Et je me suis plus investie dans ce cours-là que dans n'importe quel de mes autres cours. Il n'était même pas tant essentiel à mon cheminement collégial à ce moment-là. Donc, comme quoi, vraiment, les profs peuvent faire une différence. Puis c'est au cégep aussi que j'ai commencé à voir dans mes travaux, moi vraiment qu'on avait des travaux un peu introspectifs, mes remises en question par rapport à mon fonctionnement, puis ma soudaine compréhension de mon sentiment de décalage qui était très fort parce que la farouchness était très forte au cégep. Plus contrairement à toi, Solène, qui avait un groupe d'amis un peu fusionnel, qui a une espèce d'encadrement informel, moi, absolument pas. Là, c'est ça. Je me sentais vraiment plus ermite et...
T'étais rendu un électron libre.
Moi, c'était la première fois que j'avais un groupe d'amis, en fait. C'était au secondaire, j'étais vraiment la fille souvent toute seule qui était la weirdo qui allait sur Internet. Là, c'était vraiment bizarre à l'époque. Fait que... J'étais vraiment toute seule. Puis au cégep, ben là, c'est ça, j'étais dans un groupe, je faisais partie de la bande. J'étais wow! Mais on avait beaucoup de points en commun. La plupart étaient doués aussi. Ça s'est confirmé par la suite. Là, fait que ça aide, mettons.
Ceci explique cela.
Ouais, c'est ça.
Là, je réalise que dans le fond, je vous fais faire ma chronologie de vie, somehow. Là, fait que je vous amène avec moi. Puis.
Vas-y fort!
Pensez à vos anecdotes. Là. Mais bref, pour mon cheminement, j'essaie d'aller accélérer un peu. À l'université, ça s'est prononcé. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de clash au bac parce que je m'ennuyais énormément. J'avais des difficultés à investir. J'ai même été élue la personne la plus en retard de tout mon bac. Une amie que j'ai revue plusieurs années plus tard m'a dit qu'elle me trouvait bien mystérieuse au bac, puis j'avais trouvé ça vraiment hilarant. J'étais comme, non, j'étais juste farouche et asociale, mais si tu veux me mettre le mot mystérieuse dessus, ça me fait plaisir. Puis, j'ai des profs qui ont commencé à me dire aussi que je pouvais aller prendre une marche si j'en avais besoin. Tu sais, normalement, c'est comme au primaire que les jeunes petits garçons blancs très typés selon le DSM, on les envoie gambader dans le corridor. Ben moi, c'est à l'université qu'on m'envoyait prendre des marches parce que j'avais la bougeotte ou j'avais le droit d'être debout dans mes cours. Bref. C'est aussi là que j'ai commencé à investiguer ça, donc la neurodivergence, avec mon médecin de famille pour la première fois. Puis j'en avais parlé à l'épisode 1, qui m'a dit « ça se peut pas que t'aies un TDAH, t'es bonne à l'école ». Fait que ça a fait comme foin foin, mais j'ai quand même obtenu une évaluation avec le CADRA. Et le CADRA a laissé voir clairement un profil neurodivergent, mais j'étais en réaction très forte parce que le CADRA, c'est un test que je trouvais qui était facile à influencer. Je trouvais que c'était facile de lui faire dire que j'avais un diagnostic, finalement. Donc, je n'ai pas du tout accordé de légitimité à ce test-là de manière très réactive. Et ce n'est que quelques années plus tard, c'était allé comme en 2019, que j'ai fait faire mon évaluation de neuropsy réellement. Mm-hmm. Et là, l'évaluation a permis de faire ressortir justement un profil TWICE et plusieurs traits. Sauf que j'ai décidé que je ne le croyais pas.
C'est un classique avec toi.
Après plusieurs années, après toutes ces remises en question, après une évaluation de neuropsy, un cadrage, j'ai quand même choisi d'être en opposition et je pense que ça m'a pris une bonne année ne plus être en colère. Je pense que c'est comme le meilleur mot que je peux mettre dessus. J'étais en réaction. J'étais vraiment... J'étais pas d'accord. J'étais comme non, je veux pas m'approprier le vécu d'autres personnes. Il y a une surdiagnostication, surmédicalisation. Je refusais catégoriquement de me dire que c'était ma réalité. Je me sentais que j'avais pas le droit. C'est un peu. Je sais pas si ça vous évoque de quoi, mais moi, c'était vraiment. Mon sentiment d'imposteur était très, très fort à ce moment-là.
Moi, c'est pas du tout ça. Tu vois, moi, ça a commencé à mes 19 ans quand j'ai déménagé en France. Là, il y a vraiment eu un clash. Ça a été très, 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 très dur. Et là, j'ai commencé à dérailler parce que je changeais tous les paramètres autour de moi. Là, il y avait plus rien, il y avait plus... J'étais toute seule, puis je devais me démerder toute seule, puis c'était ce que je voulais, mais my God, que ça a été tough. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des dépressions majeures. Fait que moi, ça a été le premier signe. Puis, ben, ça a été toute ma vingtaine. J'ai cherché ce qu'il n'y avait pas. J'ai eu plein de diagnostics sur le front, là, mais j'ai été diagnostiquée bipolaire, trouble de personnalité limite, quoi d'autre? Le trouble anxieux généralisé. J'ai tout eu, là, sérieusement. C'était assez intense. Puis, chaque fois, j'étais ouais, mais non, c'est pas ça, ça colle pas. Ça couvre pas tout non plus. Puis c'est en 2017 que... Puis, ah oui, puis j'ai toujours été fascinée par l'autisme. Et assez étrangement, je trouvais que l'Asperger particulièrement était vraiment intéressant. Puis je me disais, je veux un ami Aspi, il me semble que ce serait le fun. Il me semble que je m'entendrais bien avec un Aspi, tu sais. Puis, même chose, je me sentais pas légitime à être autiste. Pour moi, c'était pas ça. Puis j'avais été voir dans le DSM, puis je correspondais pas aux critères. En tout cas, je trouvais pas. Je me reconnaissais pas. Mais je lisais plein de témoignages sur ce que c'était que d'être autiste et je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouvais des points, des atomes crochus avec ces personnes-là. Mais moi, être autiste, j'y croyais pas. Puis j'en avais parlé à mon médecin une première fois. Puis il m'avait dit, à cette époque-là, j'étais assez stable. Puis en fait, j'ai pas mentionné que je pensais être autiste. J'ai dit que je voulais voir un psychiatre. Puis il m'a dit, ben non, on va pas déranger un psychiatre, tu vas bien. En ce moment, pourquoi chercher plus loin, tu sais? Fait que j'avais dit que, tu sais, je trouvais que les diagnostics que j'avais fitaient pas, mais il était zéro enthousiaste à l'idée d'investiguer tout ça. Jusqu'à ce que je lise c'est même pas ça. Oui, j'ai lu. C'est dur de se rappeler de tout ça, il y a tellement de choses.
Oui, il y a énormément de choses.
Mais j'ai lu le Derrière le mur de verre de Marie-Josée Croteau, et puis ça a été un intense, parce qu'elle commence son livre en disant qu'elle cherchait... à expliquer son absence de compréhension du langage non-verbal. Et je me reconnaissais là-dedans, tu sais. Mm-hmm. Puis elle dit, ben moi, ça m'a mené à l'autisme, ça m'a mené à l'Asperger. Puis j'étais, ben sérieux, pour vrai? Puis là, ben c'est une femme, fait qu'il y avait plus d'affinité déjà, je voyais plus des choses qui se recoupaient dans ma vie aussi. Puis finalement, j'ai dit à ma psy qui me suivait depuis comme 10 ans que je trouvais que j'avais des points communs avec l'autisme. Puis elle me dit, ah, c'est vrai que vous avez des points communs. Et là, badang. En fait, ça a comme fait une espèce d'illumination dans ma tête. Ça y est, j'étais autiste. Pour moi, c'était évident, c'était clair comme l'eau de roche. Mais ma psy était absolument pas d'accord, elle. Pour elle, j'ai toujours été un portrait complexe et je n'étais pas autiste. Mais quand même, j'ai décidé d'aller chercher mon diagnostic au privé, parce que je voulais pas aller au public, parce que c'était long, parce que ça demande... Souvent, au public, ils demandent est-ce que les parents interviennent, puis je veux pas que mes parents soient là-dedans. Fait que j'ai décidé d'aller donc au privé. Puis grand bien m'en fut, parce que ça, je l'ai remboursé, en fait, ce diagnostic-là, parce que je l'ai finalement eu. Je l'ai remboursé assez vite avec, je sais pas moi, de l'aide financière aux études, avec... j'ai eu un casque anti-bruit avec une subvention... quand j'ai été sur la solidarité sociale, ben justement, j'avais droit à la solidarité sociale parce que j'étais autiste et donc j'avais une contrainte sévère à l'emploi. Bref, ça a été un investissement que d'aller chercher ce diag-là. Puis ça m'a ramené à ma confirmation de douance que j'avais depuis mes 4 ans. Je l'ai eu parce que mes parents, je voulais absolument aller à l'école, puis mes parents m'ont fait passer tous les tests pour passer une dérogation et commencer l'école à 4 ans. Et puis, ben, c'est là qu'on a vu que j'avais une douance. Mais j'avais jamais allumé que ça avait un impact sur qui j'étais, sur comment je réagissais au monde, comment je percevais l'univers. C'est vraiment quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme que là, j'ai fait « Ah, c'est vrai, j'ai ça aussi. » Et que ça a été ça, mon cheminement à moi. Puis moi, ben, ça a été je sais pas si c'était tellement une évidence, c'était tellement un soulagement d'avoir enfin le bon diagnostic. C'était de trouver une communauté aussi. Puis, ouais, ça allait de soi, puis c'était un soulagement. J'étais pas la fille bizarre, extraterrestre. C'était logique, la façon dont je pensais. Puis j'ai évidemment lâché ma psy à ce moment-là, parce que, franchement.
Okay.
Mais, parce que même après mon diagnostic, elle a admis que j'étais autiste, mais elle en doutait vraiment beaucoup. Fait que c'était bon, je pense qu'on a atteint la limite de notre cheminement ensemble. Puis là, j'ai trouvé une neuropsy qui connaissait l'autisme, puis j'étais absolument fascinée parce qu'elle savait comment je fonctionnais avant même que j'y en parle. Je suis pas habituée à ce qu'on sache comment je fonctionne. C'était pas normal, c'était même freakant. Ouais, donc c'est ça. Moi, ça a été ça, mon chemin. Puis toi, Mélissa?
Ouais, ben Mélissa, je vais te demander, est-ce que tu voulais que prendre la balle au bon puis je termine mon histoire plus tard? Ou... Parce que là, j'ai l'impression d'avoir été... Tu vas la faire après en un seul morceau?
Ah, t'avais même pas fini?
Non, non, au contraire, tu m'as pas interrompu, parce que j'ai l'impression qu'on prend mon cheminement, puis là, on l'utilise pour faire des jalons, puis faire des résonances avec vous deux. Mais c'est ça que, genre, j'étais comme, est-ce que je continue à être une unité de mesure chronologique, ou est-ce que... ou est-ce que je termine, puis je te passe la poque après?
Ben, gars, si tu voulais terminer, vas-y, puis je le prendrai après.
Parfait. Ben, je vais essayer de faire ça vite. Dans le fond, je vous l'ai dit, j'étais en grosse réaction après l'évaluation de neuropsy. Ça m'a pris une bonne année de décrocher. Là, j'ai commencé à la maîtrise. Et c'est là que moi, il y a comme de quoi que c'est... Les astres se sont alignés. Là, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis mis à me sentir beaucoup plus à l'aise dans mon environnement, à avoir un contexte qui me stimulait énormément, qui adressait beaucoup plus mes intérêts, mon niveau de motivation, mon besoin de stimulation. Et je me suis mis à investir la neurodivergence comme un intérêt très, très fort à ce moment-là, la preuve étant qu'un mémoire en a résulté. Puis je ne faisais que lire sur le sujet, ça a été obsessif mon affaire, là. Un peu comme on en avait déjà parlé là, avec Mélissa aussi, puis Solène, ça devient un intérêt quasi spécifique, puis il y a cette notion aussi au début où on se met à lire tout ce qu'on peut, là. On avait même évoqué un mème sur le sujet qu'on pourrait partager là, sur les phases du diagnostic. Et j'ai donc été rechercher une autre évaluation parce que tu sais,
jamais. Pourquoi pas?
Fallait que je fasse mentir la première. Puis qui a confirmé, voire même renforcé la complexité de mon profil, qui a donné un peu plus de nuances et qui m'a fait faire « bon, ok, je rends les armes, j'accepte, j'investis cette identité neurodivergente-là ». Et le podcast s'inscrit complètement dans mon cheminement, dans le sens où ça a été ma façon à moi d'être dans le rétablissement-ish avec mon identité, de me reconnecter à qui j'étais et de développer une espèce de fierté neurodivergente et de me dire « en fait, un peu comme tu disais, Solène, je suis pas juste weird, bizarre, farouche, etc. Il y a un fonctionnement différent. Ça crée toute ma couleur. Ma couleur, ben maintenant, je l'aime, je l'assume. Puis j'en ris d'avoir plein de traits un peu étranges, puis plein de petites rigidités, puis de quirkiness, puis de farouchness. Écoute, c'est moi. C'est très bien. Donc voilà, autant le rock jusqu'à la fin. De toute façon, ça changera pas. Donc.
Ouais, moi aussi, c'est lié à ma maîtrise, étrangement. Moi, c'est mon diagnostic est arrivé à la fin de ma maîtrise. Je suis en train de rédiger mon projet supervisé. Mais ça a été... je pense que la maîtrise a aussi été un déclencheur dans la mesure où ça a été tellement difficile. J'ai tellement frappé un mur pendant la maîtrise que ça a fini... Il fallait que je trouve la solution. Il fallait que je trouve un problème.
C'est fou, hein?
Ce qui marchait pas. Puis c'est ça. J'ai abouti.
Ce qui est bien, je pense, c'est que tu dis que tu as frappé ce mur-là à la maîtrise. Mais c'est pas ça qui t'a empêché de continuer à aller chercher d'autres études, puis d'autres, tu sais, de continuer à étudier au deuxième cycle aussi, fait que... ça t'a donné, je pense...
Ouais.
J'interprète, mais j'imagine que ça a dû te donner les outils pour être capable de surmonter ce que t'avais vécu, puis de pouvoir continuer, parce que c'est quelque chose que... Tu sais, je vois à quel point ça t'anime de lire, puis d'étudier, puis de...
Oui, mais c'est beaucoup plus facile et ça me fait beaucoup moins peur d'étudier depuis que je sais que je suis autiste, parce que je sais pourquoi ça fonctionnait pas à la maîtrise. Je me connais mieux, je connais mieux mes limites, je sais mieux comment prendre soin de moi, fait que notamment je sais que je ne peux pas travailler temps plein et étudier à côté, ça ne fonctionne pas. Ou l'inverse, je peux pas étudier temps plein et travailler à côté. Peu importe la configuration, il faut que les deux soient à temps partiel.
Contrairement à moi qui ai besoin de faire 150 trucs en même temps. T'sais, c'est fou le fonctionnement.
Ouais, mais moi, je pense que je me suis brûlée parce qu'avant, j'étais capable. Je travaillais temps plein, j'étudiais temps plein, puis j'étais all-in. Mais je suis plus capable de faire ça. Je me suis brûlée complètement. Il y a une séquelle suite à ça. Mais ça a été à la maîtrise que là, vraiment, ça marchait plus. Là, j'étais plus capable. Puis il y avait, mais aussi, j'étais en dépression pendant ma maîtrise, j'ai dû déménager alors que ça faisait 10 ans que je vivais dans mon logement, c'était vraiment tough, là, la maîtrise.
Et puis, juste vous dire, avant que Mélissa t'embarque, j'en reviens pas, je pense à mon cheminement, puis c'est fou, ma deuxième évaluation, là, j'étais à la chercheuse d'une clinique spécialisée en me disant « eux autres, ils vont voir clair à travers mon jeu ». Peux-tu vous dire à quel point j'étais dans le déni, ça n'a aucun rapport.
Mais tu sais, ça fait partie des étapes du deuil. C'est vraiment un deuil. Puis moi, je l'avais vraiment vécu comme un deuil là, quand ça s'est produit de mon côté. T'sais. Puis un peu comme Fran. Et je trouve ça drôle à chaque fois que je t'écoute parler ou qu'on se raconte des trucs comme ça. Je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, il y a tellement des corrélations entre ce qu'on a vécu. Fait que je trouve ça le fun. En tout cas, pour moi, je trouve une représentation en toi de ma réalité aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, de mon côté aussi, comme je disais tantôt, tu sais, au niveau du passage au cégep, ça avait été quand même assez quelque chose pour les mêmes raisons que toi, en quelque part, puis aussi parce que pour moi, ben j'avais vécu beaucoup d'intimidation tout mon primaire puis tout mon secondaire, ce qui a fait que je pense que de me réfugier à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, dans des intérêts spécifiques un peu intenses, dans des lectures, c'était pour moi une façon de me sauver, puis de me créer une bulle qui me réconfortait. Puis j'avais aussi des problèmes de santé quand j'étais plus jeune, fait que j'ai été beaucoup des opérations, beaucoup en béquille, en chaise roulante, en canne. Fait que ça fait que, tu sais, quand t'as genre 10, 11, 12 ans puis que t'es à l'école avec une canne de personnes âgées, ça aide pas à ta popularité.
Non, fait, c'est sûr.
Fait que, tu sais, quand je fast-forward un peu dans ma vie, rendue au cégep, tu sais, là, tout d'un coup, j'avais plein d'amis pour d'autres raisons qui n'étaient pas nécessairement des raisons positives. Fait que je pense que dans mon cheminement de vie, c'est là que j'ai... En changeant d'environnement, je me suis comme créé un faux self complètement différent de qui j'étais. Puis ça a fait que tout d'un coup, hop, j'avais des amis, mais comme je dis, c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est pas nécessairement des détails dans lesquels j'embarquerais aujourd'hui. Mais bref, tout ça n'a pas aidé à mon cégep, mais j'avais aussi des profs au cégep qui étaient vraiment très bienveillants. Puis quand je suis rentrée au cégep, j'ai rentré en cinéma.
Mm-hmm.
Fait que, puis on reviendra tantôt, moi je veux savoir qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez...
Ah oui!
Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es grand? Fait qu'on va revenir là-dessus. Mais c'est ça, j'étais en cinéma, puis les profs, tu sais, je pense que j'étais comme encouragée... À chaque moment un peu de mes études puis du cégep par les résultats que j'obtenais. Fait que dans mes cours de con, dans mes cours de cinéma, j'avais comme des super bonnes notes puis des éloges de la part de mes profs. Et là, je suis comme, OK, mais je suis vraiment bonne là-dedans, tu sais. Fait que là, rajoute là-dessus, là, au cégep, au secondaire, j'étais aussi vraiment bonne dans toutes sortes d'affaires. Fait que là, tu te dis, OK, mais aussi que je vais mettre mes efforts, comment est-ce que je vais choisir qu'est-ce que je veux faire, puis comment est-ce que je vais évoluer là-dedans. Fait que là, tu passes de « j'avais pas d'amis, j'étais martyrisée », c'est peut-être trop fort, remarque que c'est le premier mot qui m'est venu en tête, là, malheureusement.
Mais ça parle de ton ressenti, à la limite, même si c'est fort, toi, si tu l'as vécu très, très intensément. Puis ça
c'était très intense, oui. Puis après ça, au cégep, avec le changement d'environnement, avec aussi des passions qui étaient peut-être moins communes. Fait que, tu sais, mettons, nos parents, ben certaines personnes, tu sais, les parents, quand ils ont des métiers plus traditionnels, mais là, quand tu dis que tu vas aller en cinéma, c'est sûr que ça peut lever des petits flags de « mais vas-tu avoir de la stabilité? Est-ce que c'est vraiment un bon choix? » Fait que là, tu sais, ça aussi, ça a des flags. Bref, j'ai été travailler sur un plateau de cinéma une journée, j'ai trouvé ça horriblement dégueulasse comme job. Fait que j'ai lâché ça tout de suite, drette là. Puis, après ça, j'ai été longtemps à me chercher. Longtemps, longtemps, longtemps. Je pense que cette transition-là, plus tous les questionnements que j'avais ont fait que j'avais pas confiance en mes capacités. Ça a fait que j'ai un profil d'études et de parcours professionnel extrêmement atypique. Quand j'ai lâché le cégep, en fait, après ça, j'ai été un petit bout de temps à juste travailler, avoir des jobs. Puis après ça, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Je suis allée faire un DEP en esthétique. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer le clash qu'il y a eu entre moi puis le reste du groupe.
Plus jeune que toi, puis complètement différent.
Ben, écoute, j'étais pas dans les plus vieilles à ce moment-là. J'avais...
Tant mieux.
Ben, c'est pas longtemps après que je lance le cégep, fait que je devais avoir, je pense, 19 ans dans le temps. Puis le monde, il y en a beaucoup qui allaient comme en étant plus vieille, comme pour se trouver un métier ou quoi que ce soit. Puis j'avais des profs que j'adorais vraiment, là, les profs, ils étaient ça à coche. Puis ils étaient capables de m'accommoder dans différentes choses. Tu sais, par exemple, il y en avait une prof qui disait, « Mais c'est parce que tu finis de dessiner à la place de m'écouter, comme je trouve ça insultant. » Mais moi, je n'étais pas capable de m'asseoir puis de l'écouter.
Mm-hmm.
Puis tu sais, je veux dire, je lisais le truc, puis c'était facile. Puis là, je lui ai dit, écoute, est-ce que j'ai les meilleures notes de la classe? Elle dit oui, ben c'est ça. Laisse-moi dessiner, puis ça va bien aller. À partir de ce moment-là, ça a super bien été, puis j'ai gardé une relation. Tu sais, il y en a une que je lui parle encore, là, je l'ai encore sur mon Facebook, puis des fois, on se dit un coucou, tu sais. Fait que ça a été des belles relations que j'ai eues, mais après ça... Je me suis retrouvée à vouloir travailler puis à pas aimer les pieds. Quand t'es esthéticienne puis t'aimes pas les pieds, t'es mal parti un peu. Puis c'était pas la mode dans le temps, là, les fossiles, tout ça. Puis une chance, parce que je sais pas si j'aurais trop aimé ça à ce moment-là pour commencer à vraiment faire des fossiles. Puis là, je me suis cherchée longtemps. Puis j'étais malheureuse. Puis là, j'avais une job dans un bureau de réception, tu sais, comme réceptionniste dans un fournisseur de produits esthétiques. Puis... Écoute, moi, j'avais l'habitude de partir d'une job quand quelqu'un me crie après.
OK.
Genre, si tu me payes pas assez cher, pour que ça vaille la peine, comme je ne mérite... Ben, tu mérites jamais ça, mais si tu me payes au salaire minimum puis que tu me crées après une fois, t'es sûr que je suis plus là le lendemain.
OK. C'est bien, t'as des limites franches et
établies. Oui, fait que j'avais des limites franchement établies avec ça. Puis là, plus tard, rendu à 21 ans, j'avais pas fini mon cégep, puis là, je suis allée à l'université comme étudiante libre, en art plastique. Encore une fois, je pense que je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai pris un cours en gestion des ressources humaines complètement parce que j'avais besoin de choisir disco, puis j'étais étudiante libre, fait que j'avais pas les premiers choix, puis il restait une place en convention collective. Mon père travaille là-dedans, fait que je dis, bon, l'essayer. Puis je suis tombée en amour avec ce cours-là, avec ce prof-là. Puis finalement, j'ai fait mon bac en gestion des ressources humaines. J'ai attendu pour être admissible, c'est ça, à 21 ans. Puis là, j'ai un peu comme Solène, j'ai vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts. Là, j'étais dans l'association étudiante, je travaillais 25-30 heures, j'avais 4-5 cours par session, j'arrêtais pas. Mais j'aimais ça, puis c'était juste le bon niveau de m'occuper dans tout, puis j'avais l'impression que j'étais capable d'être plus moi-même aussi. Puis là, après ça, ben j'ai commencé à travailler, puis c'est là que ça a commencé à peut-être lever des flags, puis à toujours investir, puis investir plus. Puis je pense que dans le cadre d'un travail, par exemple, versus à l'école, tu finis ton cours, tu as ta note, puis tu passes à autre chose. Au travail, tu peux toujours bâtir plus, par-dessus, puis t'en rajouter jusqu'à temps que tu t'as trouvé ta limite, mais la mienne, je l'ai trouvée peut-être trop tard. Puis c'est quand j'ai eu ma fille, principalement, que là, il y a comme des flags qui se sont levés. J'avais de la misère à m'occuper d'elle, en plus de faire le ménage, en plus de m'occuper de moi-même, en plus de me lever la nuit. Tu sais, déjà, avoir un enfant, c'est beaucoup, mais dans mon cas, c'était... Mon mari capotait là, parce que j'étais plus fonctionnelle. J'étais plus capable de rien nettoyer dans la maison. C'était catastrophique, vraiment. Tu sais, je me sens mal pour lui. fait que là, tu te sens incompétente comme mère. Tu te dis, mais ça devrait être... Il me semble, je sais pas, ça devrait être comme plus inné que ça. Mais non, c'était vraiment complexe. Retourne au travail. Ça a été long aussi. Ma fille, elle avait des allergies alimentaires qui ont fait qu'elle a juste commencé la garderie à 2 ans parce que je trouvais pas de garderie qui était capable de la prendre en charge de façon sécuritaire. Nouvelle responsabilité. Puis là, ça bâtissait. Puis à un moment donné, j'ai juste comme pété aux frettes. J'ai fait un burn-out, mais je l'ai comme pas vu venir. Fait qu'il y a du monde qui dit, tu sais, ralenti, mais je le voyais pas pourquoi j'avais besoin de ralentir. Puis à ce moment-là, j'avais vu une psychologue, puis là, elle me disait, ben, tu fais de l'anxiété. Fait que là, elle fait tout le protocole de traitement d'anxiété. Puis là, j'étais comme, mais ça colle pas. J'ai l'impression que tu me fais travailler comme si... Puis là, c'est vraiment pas péjoratif, mais le sentiment que j'avais, c'est comme si j'étais comme une ma tante qui écoute TVA puis qui a de l'anxiété, genre... Mais j'étais comme, c'est pas ce niveau-là d'anxiété que je vis, c'est parce que je sais tellement de choses, puis je perds tellement de choses dans ma tête que ça devient comme une espèce de foutoir incroyable.
C'est comme le sac magique de Hermione dans Harry Potter. Genre, tu sais, que tu peux piger. Ah, mais tu sais qu'elle a son sac avec son sort, là, qu'elle peut tout mettre dedans, là, une tente, un divan, des vêtements, là, puis... Oh, c'est oui. Genre, tu rentres ta main, mais tu sais pas ce que tu vas trouver, où tu vas le trouver, puis... C'est... infinie poche de matériel et de savoir.
Bon, ben écoute, je pense que c'est une super bonne image. Vous m'avez écouté, je m'en rappelle plus.
Sinon, Mary Poppins, c'est la même chose. Mary Poppins, oui. Est une autre. Exact. Pour les plus âgés d'entre nous.
C'est ça. Oui, ben oui. Puis, tu sais, toujours sortir des affaires le matin, puis de ne pas savoir pourquoi je sais ou comment je sais. Puis là, tu sais, en vieillissant, j'avais des amis avec qui, tu sais, avec qui je pouvais parler d'intérêts spécifiques ou de choses vraiment complexes et compliquées, puis je tripais ma vie. Fait que là, ça remet plein de choses en question. Tu sais, j'avais un ami qui il avait étudié en horticulture, puis on avait des soirées de conversation sur les champignons. Je veux dire à quel point c'est fascinant, la mycologie, comme c'est incroyable. Tu sais, d'autres amis avec qui on parlait de physique quantique, tout ça faisait que je me sentais vraiment nourrie, puis d'un autre côté, je me trouvais niaiseuse.
Non, OK, je ris pas de toi, là. Vraiment pas. Non, c'est que t'as dit je me sentais nourrie juste après avoir parlé de champignons, puis là, ça a trigger mes connaissances en champignons, puis là, je m'imaginais... Genre, je pensais au fait de nourrir, puis là, je cherchais le nom du champignon qui est comme... qui fait une espèce de mousse partout dans une forêt, puis que c'est un seul et unique champignon.
Un blob,
bref!
On avait déjà une conversation sur les blobs.
Oui, ben c'est ça, t'as trigger mes propres connaissances et intérêts sur les champignons. Voilà.
C'est fascinant. Si vous savez pas c'est quoi un blob, allez checker ça vaut la peine.
Oui, c'est fascinant un blob. On aime les blobs.
Mais excuse-moi, j'ai comme rigolé au moment où tu disais « je me sentais niaiseuse », puis là je me sens un peu coupable de mon timing, tu comprends?
Mais non, c'est correct! Mais c'est ça, il y avait toujours cette espèce de disconnect-là de... Je comprenais les choses vraiment très, très, très complexes et compliquées. J'avais toujours soif de plus. Puis en même temps, j'avais l'impression des fois que, tu sais, je perdais des affaires puis je comprenais pas pourquoi je les perdais. Puis je me sentais non fonctionnelle par rapport à plusieurs choses. Puis là, a été voir un nouveau psychologue. Puis à ce moment-là, c'est ça, j'ai été en arrêt de travail. Puis c'est là qu'il m'a sorti le... peut-être twice, tu sais. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, j'avais même été faire de la recherche aussi, voir si j'étais peut-être autiste. Ben finalement, non, ça collait pas. Mais là, il me dit ça. Fait que là, je commence à chercher sur Internet, je regarde. Je suis allée à la bibliothèque de ma ville lire le DSM. J'étais comme, non, c'est pas... J'étais qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Pour aller faire l'évaluation, puis finalement, oui, avoir tous les critères. Puis c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à aller mieux parce que, de un... Puis j'ai dit que ça a vraiment commencé à aller mieux, mais c'est un drôle de processus de deuil parce que quand t'es twice, c'était comme les deux côtés de la médaille. Fait que c'est là que j'ai compris que t'es assez intelligent pour pas avoir l'air TDAH, puis t'es assez TDAH pour pas avoir l'air si intelligent que ça.
Mm-hmm.
Fait que la douance, tout ça, ça m'avait beaucoup aidé à surmonter un peu ce syndrome de l'imposteur-là ou peut-être le gaslighting que j'avais vécu au courant de ma vie qui faisait que j'avais pas confiance en mes compétences puis mes connaissances intellectuelles. Puis je dis gaslighting parce que j'ai pas toujours eu des super bons amis dans la vie. Puis j'ai déjà eu des amis qui étaient très intelligents et aussi peut-être un petit peu narcissiques. Fait que bref, tu sais, tout est dans tout, puis on dit, tu sais, des fois, ce qui se passe dans notre vie va influencer, tu sais, ce qui se passe au travail, puis ce qui se passe à l'école, puis c'est toujours un espèce de gros melting pot de tout ça. Fait que bref, la douance m'a beaucoup, et la confirmation m'a beaucoup aidé à me faire confiance. Puis d'un autre côté, au niveau du TDAH, c'est ça qui était un gros deuil de me dire, OK, mon cerveau, il est fait comme ça, là. Puis je me reconnaissais pas plus au niveau du DSM puis du diagnostic, mais quand tu commences à regarder au niveau de la communauté, puis c'est un peu comme toi, Solène, quand tu as lu le livre, quand on parle avec les personnes, mais là, on se reconnaît de d'autres façons que seulement le diagnostic. Puis là, ça commence à faire du sens. Puis là, il y a eu comme un apprivoisement de ça qui s'est produit. En plus, c'est d'aller chercher les outils puis l'aide autour de ça pour être plus en mesure de moi trouver mes zones de confort, de trouver mes zones d'énergie puis de trouver mes forces. Puis là, j'en suis ce que j'en suis. Fait que oui, le chapeau neurodivergent, je trouve qu'il est plus confortable parce que c'est plus facile pour moi de pas toujours segmenter. Puis t'en avais déjà parlé dans un autre épisode, Solène, de dire, tu sais, toi, tu sais exactement quand c'est l'autisme qui parle puis quand c'est la douance qui parle un peu plus. Moi, dans mon cas, je ne sais jamais qu'est-ce qui est quoi. C'est juste une espèce de gros tout qui s'influence puis qui s'entremêle un peu plus comme toi, tu l'exprimes, Fran.
Ouais, mais c'est encore drôle.
Oui, puis à la limite, c'est pas... Je veux dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est la combinaison des deux, des fois, qui donne cette manifestation-là spécifique que tu
dis. Ouais, mais c'est encore drôle. Des fois, je sais pas c'est lequel qui joue, puis c'est plus facile, je te dirais. J'ai assez bien à le discerner, mais des fois, les deux se confondent, puis je sais que je passe comme une neurotypique beaucoup plus facilement grâce à ma douance, mais c'est pas... C'est ça. Donc, ça joue sur mon autisme, mais encore là, pas tant que ça. Donc, c'est mélangé aussi.
Mais c'est ça, tu sais, c'est pas deux couleurs distinctes tout le temps, tu sais, ça fait une autre couleur complètement de ta personne.
C'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'on est trois femmes, hein, fait que les femmes, c'est documenté, on est bonnes pour masquer puis pour compenser, fait que les diagnostics tardifs dans le cas des femmes sont hyper fréquents.
Oui, puis la plupart vont avoir un peu comme moi un cheminement assez intense au niveau diagnostic. Là. Je vous dis, j'ai tout eu comme diagnostic. Puis ça fait pas. Puis je suis pas la seule. Je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi qui ont eu aussi plusieurs étiquettes qui ne collaient pas. Et il y a des gens comme ma psy de l'époque qui disent « Ben non, c'est pas ça parce que tu corresponds pas exactement à ce que le DSM dit. » Mais le DSM, ben c'est ça, c'est basé sur des garçons. Non seulement on est des femmes, mais on est des adultes. Donc c'est complètement différent.
Non, c'est ça. Puis c'est là que ça devient difficile de se retrouver, je pense, quand t'as un diagnostic, peut-être plus tardivement, puis que t'as toute ton expérience derrière toi. Tu sais, moi, au début, tu sais, bon, ben, on l'a déjà dit, là, mais j'ai commencé mon cheminement en lisant le livre de Jeanne Siofachin, « Trop intelligent pour être heureux ». Mm-hmm. Puis, tu sais, oui, je me reconnaissais, mais en même temps, tu sais, t'as la crainte d'embarquer dans l'effet Barnum, de dire, bon, mais je me reconnais parce que je veux m'y reconnaître. Puis, c'est un peu ce que tu avais vécu, Fran, en faisant les tests, c'est de sentir que tu pouvais peut-être influencer ton résultat, tu sais.
Ben oui, ouais. Puis moi, j'ai été me lancer dans la littérature scientifique aussi parce que je voulais aller me démentir. J'avais vraiment peur de l'effet Barnum. Je ne peux même pas te dire à quel point je me disais. Je suis qui, moi, pour avoir pour ce profil-là, puis je veux pas m'y reconnaître, puis je veux pas être cette personne-là qui dit que, puis c'était quasiment une phobie, là, ça avait pas de bon sens, j'étais en réaction avec cette idée-là, j'avais vraiment très peur.
Moi, ça a été ça jusqu'à ce que, comme je racontais tantôt, ma psy me dise que j'avais effectivement des traits similaires, là, ça a été comme l'illumination, comme je te disais tantôt, mais jusque-là, j'étais, ben oui, c'est ça, moi, autiste, jamais de la vie, et je l'idéalisais, l'autisme aussi, il faut le dire, là. Pour moi, c'était, ça pouvait absolument pas correspondre à mes difficultés, pour moi, c'était, tu sais, je regardais la supérieure, puis j'étais, ah, mais tu sais, t'as de la difficulté avec le social, mais moi aussi, fait que c'est pas la fin du monde, tu sais.
Oui. Puis les profils, tu sais, tout le monde est tellement différent que, tu sais, je me dis, oui, les critères diagnostiques sont là pour une raison, mais sachant à quel point on est tous différents et divergents entre nous dans ce continuum-là, c'est pas toujours facile, tu sais. Comme je dis, mettons, je me reconnais beaucoup avec toi, Fran, dans ce qu'on a vécu. Ma meilleure amie, pendant une dizaine d'années, était TDAH, puis jamais je me suis reconnue en elle ou en ce qu'elle vivait, au point où ce que... T'sais, ça a eu un impact assez fort sur notre relation parce que j'arrivais pas à... À un moment donné, ça, j'avais peut-être plus la capacité d'accepter certains traits par manque de compréhension puis pour différentes raisons. Puis là, juste ça, puis je me sens comme une personne horrible.
Mais ben non.
Non, mais on a chacun nos limites aussi. Puis une amitié, une relation, c'est quand même fait pour nourrir quelque chose de positif. Si ça te coûte plus que ça peut t'apporter, puis ça a l'air très froid ce que je dis, mais je veux dire, tu n'es pas donné d'être en relation amicale avec tout le monde. Ça t'empêche pas d'être inclusive, puis bienveillante, puis compréhensive. Tu n'as peut-être pas à t'investir de la même façon pour autre.
Oui, puis, tu sais, chacun doit faire son bout de chemin aussi. Si elle faisait pas, ben, ça marche pas, tu sais. C'est comme dans n'importe quelle relation, là.
Puis, tu sais, la communication n'étant pas toujours aisée, nécessairement, en tout cas dans mon cas, là. Mais bref, tu sais, de dire que c'est ça, de trouver des personnes qui se reconnaissent, mais de faire attention quand on lit. Puis, tu sais, j'ai toujours cette, je pense, pensée critique-là face à ce que je lis. J'en parlais avec un ami hier, puis on parlait justement du livre de Jeanne Souffachin. Je suis comme, c'est un bon livre à lire au début, tu sais. Mais après ça, comme, tu le laisses là, puis tu passes à autre chose, tu sais. C'est comme une histoire que tu lis, mais on s'entend que c'est pas...
Oui.
Tu sais, c'est basé sur une expérience clinique, puis en douance, il y a beaucoup de livres qui sont basés sur l'expérience clinique de professionnels. Fait que oui, ça a une valeur, mais en même temps... le discours, puis de ce que je vois après ça, quand on parle de représentativité, puis dans les communautés, tu sais, dans les groupes de douance, versus peut-être un groupe de TDA, je trouve qu'il y a une grosse différence dans la dynamique qu'on va voir dans ces groupes-là. Dans les groupes de doués, on va voir beaucoup de, justement, ces biais de confirmation-là qui semblent se nourrir à l'infini dans des spirales. Ouais. Autour de, par exemple, ce concept-là du zèbre. Dans les groupes TDA, c'est comme plus light, plus funny, le monde s'en va des mimes, c'est comme « Ah, je me reconnais, puis next », tu sais. La vibe est comme complètement différente, tu sais.
Ouais, c'est mais fun. C'est un peu pareil dans les groupes d'autistes. Je te dirais un peu comme à la douance, tu sais, il y a des biais de confirmation assez intenses. Puis c'est, tu vois, moi, j'avais lu le livre de Rudy Simon, Asperger's, puis c'est ça, c'est un livre que tu lis au début, qui est un peu généraliste, où est-ce que, tu sais, un peu tout le monde peut se reconnaître, en tout cas, je pense. Puis aujourd'hui, je relis ce livre-là, puis c'est, oui, il y a des choses vraies, mais c'est tellement général que, tu sais, c'est normal que tout le monde se reconnaisse un peu. Fait que, bon.
Ouais, puis tu sais, quand tu lis un livre avec le titre « Trop intelligent pour être heureux », qui ne veut pas que ce soit ça la réponse à son malheur?
Oui, c'est ça, exactement.
Être malheureux pour plein de raisons sur lesquelles tu as des leviers d'action ou pour des raisons un peu moins, on va dire, glamour que ton intelligence, c'est sûr que tu as envie de te reconnaître là. C'est y a un biais déjà d'emblée, là.
Oui, donc c'est un peu les limites de l'autodiagnostic, je dirais. Je considère que l'autodiagnostic peut être valide, on est tous passés par là de toute façon. Mais ben, pas vous autres, clairement, pas Fran.
Fran qui met encore en doute constamment son profil.
Oui, il m'en est plusieurs à avoir passé par l'autodiagnostic, mais de rester sur l'autodiagnostic, je sais pas, j'ai des réserves quand même.
Mais je vais nous inviter à changer de sujet en bonne germaine du temps, mais j'allais quand même dire, tu sais, comme dans les échanges qu'on a mis avec notre auditoire, vous vous sentez représenté par le podcast, mais personnellement, chaque fois que vous vous sentez représenté par les personnes qu'on est, tu sais, Mélissa, quand tu me dis que tu cherches tu vois de la représentativité pour moi, mais moi, ça me valide ma personne, tu sais. Des fois, j'ai encore ce besoin de me faire dire, ah, OK, c'est ça, je suis encore perçue comme ça. Puis j'ai réalisé aussi qu'avec les années, je m'étais beaucoup validée et valorisée dans mon hyperactivité, dans ma curiosité intellectuelle, dans tout ce que je savais, sans vouloir l'associer à l'identité neurodivergente. Mais en fait, ça fait complètement partie de ce que j'apprécie de ma couleur, là, au final. Chaque fois qu'on me le reflète, je me sens bien, tu sais.
Ouais, moi aussi, il y a beaucoup, beaucoup de traits de l'autisme que finalement, c'est moi, puis j'aime ça, tu sais. Je veux pas le perdre.
Exact. Fait que là, si je nous amène à switcher, là, on a voulu un petit peu explorer qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était petite pour quand on était grande. Donc, là, Mélissa, tu nous as fait un petit topo un peu de ton parcours atypique et éclectique, mais est-ce que tu avais une vision quand tu étais enfant de ce que tu avais envie de faire?
Hey, je me souviens, là, je capotais parce que je me disais, comment veux-tu, moi, jeune adolescente de 16 ans, dont le cortex préfrontal n'est même pas encore fusionné, savoir qu'est-ce que je veux faire jusqu'à ce que je prenne ma retraite? C'était très confrontant pour moi. Puis ma mère, elle a toujours dit, elle, ça ne sera pas une difficulté de réussir à faire quelque chose dans sa vie. La difficulté va être de trouver qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire parce qu'elle peut tout faire.
Exact.
Ouais. Puis ça a toujours été ça le problème, c'est que j'ai facilement accédé dans même des affaires, sauf, mettons, les maths, là. Clairement, j'ai jamais pensé devenir physiciste ou peu importe, là. Mais ça m'a donné trop de choix, puis je trouvais ça bien, bien, bien complexe d'essayer de me retrouver là-dedans, puis de trouver un peu cette zone-là de ce que je voulais aller. Tu sais, avant de savoir que j'avais plus de difficultés en maths, j'ai voulu y aller en recherche pour trouver un équivalent à... aux antibiotiques, parce qu'un jour, tout le monde va devenir résistant aux antibiotiques. Fait que ça, j'ai pensé à ça peut-être en quatrième année au primaire.
J'adore ça.
Fait que non, j'ai voulu faire bien, bien, bien des affaires, mais après ça, je pense que ça a été long justement avant que je rentre à l'université parce que j'avais pas confiance en mes capacités. Puis, tu sais, je vous écoute parler, puis je regarde encore la possibilité d'aller. J'aimerais faire ma maîtrise, mais il y a encore cette partie de moi qui dit tu vas avoir de la misère, ça va être tough. Alors qu'il y a une autre partie de moi qui dit tu vas triper, ton cerveau va faire comme ah, give me more, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est fun, le deuxième cycle. Sérieusement, c'est tellement plus fun que le premier cycle.
Oh oui. C'est ça, mais pour de vrai, je pense que j'ai voulu faire tellement de métiers, là, ça, c'était même pas drôle, mon affaire. Là.
Ouais.
Et vous autres?
Moi, ça a été... c'était beaucoup lié à mes intérêts spécifiques. Fait que j'ai voulu être astrophysicienne, parce que mon Dieu, c'était passionnant. D'ailleurs, il y a une de nos auditrices qui l'est, puis...
Ben oui!
C'est malade! Sinon, j'ai voulu être avocate, j'ai voulu être médecin. J'ai vraiment passé par un peu tout, mais moi aussi, je voulais pas choisir, puis ça a été, ça a même influencé jusqu'à mon choix au cégep. Moi, j'ai fait mon DEC en sciences, lettres et arts, c'est-à-dire un programme qui regroupe un peu tout, qui donne accès à n'importe quoi à l'université, sauf musique et, je sais plus c'est quoi l'autre. Mais bref, il y a deux programmes qui ne sont pas ouverts à sciences, lettres et arts. Donc, puis en plus, on avait seulement deux cours d'éducation physique, c'était merveilleux.
Ah, oh, c'est la vie.
Ouais, parce qu'on s'entend, moi et la coordination, c'est absolument pas ma tasse de thé. Fait que, ouais, c'est ça, ça a été... J'ai repoussé jusqu'à la toute fin. Je voulais aller en génie. Je voulais devenir ingénieure en électronique ou en électricité, je n'étais pas décidée encore. Puis finalement, ben, j'ai coulé physique. Physique mécanique, quand même. Mais j'ai coulé physique. Et là, je me suis dit, non, ça marche pas, fait que je vais aller en théâtre. Tu sais, comme...
Parce que, pourquoi pas, tu sais?
Mais oui, puis tu sais, j'étais... Même mon prof de théâtre, il me dit... Parce que j'avais quand même un cours de théâtre au cégep, puis il était comme, sérieux, va pas là-dedans, je te vois tellement pas là-dedans, tu vas couler, tu vas... Tu sais, super encourageant. Merci, Jean. Fait que, non, ouais, c'est ça, c'était pas cool, puis... Mais j'ai super excellé, finalement, en théâtre. Ça a vraiment été formateur et riche et intéressant, et j'ai adoré ça. Mais évidemment, j'étais pas en jeu, là. J'étais en critique et dramaturgie, donc j'étais plus en arrière-scène. Ensuite, j'ai été en gestion des organismes culturels, parce que je voulais être en gestion, pour finalement me rendre compte, travailler là-dedans, puis me rendre compte que je gagnais le double de mon salaire quand je travaillais dans le réseau de la santé en ressources humaines. qui était ma job étudiante. Moi, j'ai jamais eu de job étudiante, genre travailler au Tim Hortons. Moi, à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé en ressources humaines. Je faisais des entrevues de sélection et compagnie. C'était vraiment cool. Donc, je faisais le double dans cette job-là plutôt que dans ce dans quoi j'avais étudié. Fait que ça, j'ai fait « Bon, ben, je vais retourner travailler dans le réseau de la santé. » J'ai travaillé pendant un bout de temps, mais je manquais de créativité. Je trouvais que c'était très, très fermé d'esprit, que c'était beaucoup dans... On mettait les gens dans des cases. Je fitais pas, tu sais. Je pouvais pas monter non plus dans les échelons parce que je disais trop ce que je pensais. Fait que j'avais à côté des petits jobs en culture, question de me nourrir un peu. Et puis, finalement, j'ai décidé d'aller faire mon certificat en ressources humaines. J'ai adoré ça. J'ai décidé de faire ma maîtrise en ressources humaines. Encore une fois, j'ai vraiment aimé ça, même si, comme je le disais, ça a été très, 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 très dur. Et là, je fais présentement un projet, un certificat en pratique rédactionnelle. Je fais aussi un programme court de deuxième cycle en équité, diversité et inclusion. Donc, comment je me suis ramassée là? Ben, en fait, j'ai jamais vraiment retravaillé en ressources humaines. Oui, avec toi, avec un de nos auditeurs aussi, Amat Manuel. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas vraiment travaillé en ressources humaines après ma maîtrise. Étonnamment, j'ai travaillé en inclusion de la neurodiversité. De l'autisme. Mm-hmm. On parlait la semaine passée d'être accompagnatrice au travail, mais je l'ai été pendant un bout de temps pour finalement me rendre compte que je vais travailler plus auprès des entreprises. Donc, c'est ça, je travaille là-dedans. Je travaille en marque employeur parce que c'est créatif, j'aime ça au bout. Puis, c'est finalement ma job de rêve, ben, c'est d'en avoir un peu plusieurs qui sont toutes à temps partiel parce que maintenant, je l'ai dit, je travaille juste à temps partiel. Continuer mes études, toucher un peu à tout, puis c'est ça mon sweet spot, entre guillemets.
Mm-hmm. Ben, voilà. Vos parcours font beaucoup écho au mien, puis ça va nous emmener très, très bien vers la suite, qui est cette idée de trouver le spot dans lequel on est bien. Moi aussi, je voulais tout faire quand j'étais jeune. Je voulais être reporter animalier, photographe, astronaute, médecin, vétérinaire. Je les ai toutes passées, ça n'avait pas de bon sens, j'arrivais pas à me fixer. J'ai fait des tests avec une conseillère d'orientation pour essayer de cibler, puis mais tu sais, ces tests-là m'avaient pas permis tant de cibler grand-chose. Au cégep, j'ai été crashée, mais j'ai été avoir du fun aussi, tu sais. Je voulais m'ouvrir des portes un peu en mode gestion entrepreneuriat, fait que j'avais atterri, tenez-vous bien, en commercialisation de la mode. Je vous confirme qu'après une session de cours à parler de tissu pendant 3 heures par semaine, ça a été la fin. Par contre, je me suis fait des amis vraiment cool là-bas, tu sais, que je suis contente encore de voir évoluer aujourd'hui, même si j'étais pas super... sociable et party time, là, mais ouais, moi, j'ai été là comme 1 an, puis c'était pas pour moi. Fait que après, j'ai fait, sais-tu quoi, le cégep, j'ai pas l'impression que ça va me servir à grand-chose, fait que j'ai finalement fait du... en lettres et communications, puis j'ai trippé à faire des trucs de radio. Moi, pour vrai, là, la radio, pas pour rien qu'on fait un podcast aujourd'hui, hey, des gens qui veulent m'écouter déblatérer pendant de longues minutes sur mes sujets d'intérêt, qu'est-ce que tu peux demander de mieux comme activité fun? Donc, mon cégep a été bien, bien fun, mais tu sais, j'ai pas investi professionnellement grand-chose de ce que j'ai fait au cégep. Puis après, ben, les tests avec la conseillère d'orientation avaient fait ressortir mon intérêt pour l'humain. Puis on s'en parlait un peu pré-enregistrement avec Mélissa tantôt. Effectivement, je suis vraiment, vraiment fascinée par l'être humain et l'humanité. Donc, la relation d'aide s'est présentée comme une évidence, surtout combinée à mon cheminement comme personne qui a grandi dans un besoin d'aider, puis d'être parfaite pour les autres, puis de plaire, puis de rendre les gens heureux autour de moi. Donc, 1+1 égale 2. Oui, mais c'est souvent
le chemin que vont prendre les neurodivergents et neurodivergentes d'aller vers
l'avant. On essaie, c'est ça, d'avoir beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Donc, ça faisait du sens à ce moment-là. Puis, mon bac en psychoéducation, ben c'était correct. Je me suis honnêtement, globalement ennuyée. J'ai eu des notes correctes, comme un peu au-dessus de la moyenne. Justement, ce qui ne m'a pas permis tant que ça d'avoir facilement accès à la maîtrise en psychoéducation qui est nécessaire pour être psychoéducatrice. Parce que je n'avais pas vraiment investi mes cours. Parce que c'était très... Moi, j'aime me poser des questions. J'aime être dans le concept. J'aime être dans l'existentiel. Quand j'arrivais à devoir appliquer la théorie en pratique, nécessairement, on tombait dans des idées de vouloir mettre des recettes en place. Ça marchait pas. Ça considérait pas la complexité des gens. Je trouvais ça vraiment frustrant puis juste décourageant parce que ça fonctionnait pas dans la réalité puis je comprenais pas qu'on veuille persévérer à tenter d'appliquer des concepts et d'en faire des recettes comme... tu sais, comme fourre-tout un petit peu pour des gens, ça marchait pas pour moi. Puis pourtant, j'aime beaucoup la psychoéducation, puis j'y trouve beaucoup. Et ça teinte énormément ma pratique aujourd'hui parce que ça parle énormément de croire dans les forces, dans le potentiel adaptatif, dans les opportunités adaptatives de l'environnement. Donc, ça reste ancré dans ma couleur. Mais bref, après le bac en psychoéducation, j'ai fini par accéder à la maîtrise. J'ai fait, sais-tu quoi, ça me tente pas, j'arrête ça là. Puis j'ai été à HEC en me disant, advienne ce que devra. J'ai été faire un DESS et qui touchait à plusieurs choses en administration des affaires. Puis je me suis rendu compte que dans mes choix de cours, je prenais toujours des cours vraiment versés vers l'humain, donc l'intelligence émotionnelle au travail, les comportements humains au travail. Puis je tripais parce qu'on se posait des questions. C'était le deuxième cycle. On remettait en question les modèles, les théories. On essayait de voir comment ça, c'était en adéquation, en dissonance avec la pratique. Et ça m'a amené à ma maîtrise. Puis la maîtrise, ben, je vous l'ai dit tantôt, l'inclusion, la neurodivergence ont pris le dessus. C'est devenu la trame de fond de ma vie. Donc, c'est là en tout temps. Puis, je n'ai jamais été aussi alignée avec moi-même que depuis que j'ai fait rejoindre justement toute ma quête d'authenticité personnelle avec mon besoin de susciter l'authenticité au travail. Je ne comprends pas que l'authenticité au travail soit encore vue comme une espèce de privilège. Puis c'est un peu ma mission ultime que de favoriser l'inclusion et l'authenticité. Et c'est là où on pourrait parler un petit peu de cette notion de l'expression « être sur son X » là, qu'on débattait justement avant l'enregistrement. Bien, moi, je me sens très alignée avec moi-même. Ce que je fais du sens. Et à partir du moment où j'ai du sens, je peux aller de l'avant. Avant, je n'avais pas de sens. Je n'avais que des contraintes, des pressions, des demandes de l'environnement. Je ne comprenais pas ce que je faisais.
Oui, puis de trouver... parce que, tu sais, dans un parcours plutôt atypique, puis, tu sais, là, en n'étant pas nécessairement en lien 100% avec la neurodiversité, même si beaucoup de personnes neurodivergentes vont avoir un parcours plutôt atypique, quand on parle des profils atypiques sur le travail, il y a un gros discours actuellement autour de c'est quoi les avantages d'avoir un employé atypique dans son équipe. Puis, dans mon cas à moi, ayant eu 40 000 milliards d'emplois étudiants différents, de travailler dans un entrepôt, travailler comme artiste maquilleur pendant des années, travailler dans une patate frite, en tout cas, j'ai tout fait pour de vrai, à part restaurant, serveuse, je me suis fait mettre dehors après 2 semaines. Ça, c'était le TDAH, là, ça marchait pas.
C'est sûr qu'il me serait arrivé la même chose, j'aurais tellement brisé de choses.
Ça, le clumsiness, là, oublie la patente. Mais cette capacité-là à bâtir un référentiel de compétences transversales, c'est riche, tu sais. Puis je me souviens, quand j'avais vu une conseillère en orientation plus vieille, quand je me cherchais, elle m'avait dit, ben toi, tes forces, c'est comme gestion, puis créativité, artiste. Là, non, à ce moment-là, le marché du travail était quand même différent. Puis le fait de... Quand elle me dit ça, je suis comme, OK, mais c'est deux choses complètement différentes, ça ne va pas ensemble. Fait que lequel je choisis? Fait que je suis allée en or. Mais aujourd'hui, en mettant tout ça ensemble, ça a été faire que j'ai réussi à trouver le sweet spot entre l'aspect gestion, l'aspect humain, puis l'aspect créativité, innovation, tout ça, qui vient tout s'amalgamer. Puis ça, ben, c'est quand même le travail d'une vie d'essayer de trouver ça, mais oui. Ouvert d'esprit, se re-questionner, de voir sur quoi est-ce qu'on peut capitaliser, puis qu'est-ce qu'on peut ressortir comme étant des forces puis des compétences transversales. T'sais, j'ai dit j'ai étudié en cinéma, j'ai jamais travaillé en cinéma sauf une journée, mais les cours que j'ai en cinéma, après ça, ça a été super utile quand j'ai commencé à travailler en e-learning parce que je savais comment mettre à plat des histoires, comment faire du storytelling, comment faire des storyboards. Fait que des fois, c'est le fun de voir le parcours de vie qu'on a eu. Ben, qu'est-ce qui nous a apporté pour être nous-mêmes, puis c'est quoi aussi être un individu dans la société d'aujourd'hui, surtout dans une société où on verse beaucoup plus vers l'économie du savoir versus ce qui était vécu avant, où ce que tu avais un métier que tu faisais jusqu'à la fin de tes jours, puis de dire que par rapport à ce sweet spot-là, puis c'est là quand on parlait de la notion d'être sur son X, ben, ouais. Tu sais, être sur son X, ça peut être un X à un certain moment de sa vie, à un certain endroit. Ce X-là, il peut se promener.
C'est ça, c'est comme une chasse au trésor.
Oui!
C'est exactement mon cas, tu sais, je fais plein de choses, j'ai comme 3 carrières parallèles, puis c'est bien correct, tu sais, j'alterne entre chacune, puis c'est comme ça que je me sens le mieux, finalement. Parce que faire tout le temps la même chose, je serais pas capable. Je deviendrais folle, ben pas folle, mais tu sais, je serais pas heureuse, vraiment pas. Je serais pas satisfaite au niveau intellectuel. Puis, donc, j'en ai 3.
Ben c'est ça. Ça résonne pour moi ce que tu dis, Solène. T'sais, je regarde mes dernières années, j'ai tout le temps eu deux emplois en simultané et ou des études en même temps. Pour moi, c'était essentiel. Ça me permettait de me stimuler, de ne pas tomber dans un pilote automatique. Et je réalise à quel point... Tu sais, tu me regardes aujourd'hui, si maintenant, là, je suis en arrêt de travail, là, ma vie n'est pas tant alignée professionnellement. Genre, on pourrait se dire, ben là, comment ça se fait que tu te sens si alignée avec toi-même? Mais c'est parce que je suis enfin en train de comprendre à quel point, comme toi, j'ai besoin d'avoir divers mandats, j'ai besoin de me stimuler différemment, d'être... avec une vision. Tu sais, au début, je pensais beaucoup à l'entrepreneuriat parce que je me disais c'est la seule façon d'accomplir ma vision. Je réalise qu'en fait, l'entrepreneuriat, le salariat, ben, c'est des véhicules différents, mais que l'un n'empêche pas que je puisse m'accomplir dans avoir du sens. Puis je suis en train de réaliser que ben on peut sortir des modèles un petit peu plus traditionnels du lundi au vendredi 9 à 5, puis qu'on peut avoir différents cumuls de mandats en salarié ou en autonome ou en contractuel. Bref, c'est en train de prendre forme tranquillement. Puis il y a des fois où je suis comme, voyons, c'est long avant que je me trouve. Puis il y a d'autres moments où je réalise que mais j'ai juste 31 ans, puis c'est tellement une pression énorme qu'on a jeune. Oui, t'es jealous. Non, mais dans le sens, tu sais, on se fait demander de choisir à 16 ans. Ça n'a aucun bon sens. On ne se connaît pas. Je disais, je regarde tout le cheminement. Il y a des moments où je me disais, voyons, je perds donc bien mon temps. Absolument pas. C'était nécessaire que je passe par toutes ces étapes-là pour arriver où j'en suis aujourd'hui, puis me dire à quel point je suis passionnée. Et les étapes ont fait que aujourd'hui j'enseigne. Aujourd'hui, je crée du contenu et je donne de la formation. Et il y en a. C'est le moment où je me sens le mieux, c'est quand je suis en train de cumuler des informations, d'analyser, de faire des liens et de transmettre mes connaissances après et de réfléchir à voix haute avec les gens qui parlent avec moi. Je veux dire, ça, je ne l'aurais pas trouvé sans toutes les étapes que j'ai passées dans les dernières années. Solène?
Ouais, quand j'avais ton âge, je savais pas que j'étais autiste.
Quand j'avais ton âge, mon Dieu!
oui, je me sens... c'est mon petit moment de vieille, OK?
J'avoue, moi non plus, quand j'avais ton âge, je l'avais pas, mon évaluation puis mon diag, fait que...
Ouais, c'est ça, je savais pas que j'étais autiste, je connaissais pas la neurodiversité, je connaissais même pas la marque employeur. En fait, c'était un sujet assez fancy à l'époque, il y avait pas... On commençait à en parler, mais c'était super pas à point. Fait que, tu sais, j'avais aucune idée de... Je connaissais absolument pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, tu sais, c'est... Puis probablement que je sais pas ce que je vais faire demain, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun. C'est je me laisse la liberté de changer constamment, puis je suis pas attachée non plus.
Ça me rassure ce que tu dis, puis là, je t'avoue que je vois le temps qui défile, puis il va falloir qu'on qu'on termine. mais ça pour dire que c'est un peu le message que j'ai envie de laisser notre auditoire aussi... partir avec, là, ce que vous dites, c'était que... Parce que moi, je capte de votre message, si vous le saviez pas à mon âge, fait que ça a l'air si... je me sens en retard, mais en fait, absolument pas, puis que le meilleur est à venir, au final, puis que depuis que je sais mon identité neurodivergente, il n'y a eu que des déboulements positifs dans plein de sphères de ma vie, by the way, ne serait-ce que parce que je vous ai trouvé vous, parce que j'ai trouvé l'activité du podcast, l'auditoire, je disais... Tout est dans tout, là, je sais pas combien de fois ça fait, mais c'est ça que tu dis depuis quelques épisodes, mais c'est tellement ça. Oui, Solène.
Ben, en fait, j'allais dire qu'à 20 ans, je savais pas ce que j'allais faire à 30 ans non plus, tu sais. C'est comme ça tout au long de ma vie. Je pense que c'est mon état, ma façon d'être. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 5 ans. Demande-moi le pas. J'en ai aucune idée. Je connais pas encore ce que je vais faire. Puis je me laisse la liberté de changer du tout au tout aussi. Puis c'est ça mon sweet spot dont on parlait tantôt, là. C'est d'être dans l'instant présent puis de me laisser la liberté de changer s'il y a besoin.
Mais j'aime ça. Ça inverse comme le paradigme de tout le temps qui était, tu sais, dans les entrevues, vous voyez où dans 5 ans?
Ah! Mais je sais jamais quoi répondre. Je vais être heureuse. Je vais être là où ça va être bien, t'sais.
Je peux même pas percevoir le temps d'aude, là, tu sais.
On inverse comme l'entonnoir, puis c'est comme de dire « Hey, en fait, je suis devant un beau problème. Chaque choix que je fais en ce moment est en train d'influencer la suite d'une belle façon. C'est vraiment nice. »
Non, c'est bien, j'aime ça ce que t'apportes, Fran, puis ça me fait juste réaliser à quel point il y a tellement de normes construites dans nos têtes qu'il faut déconstruire. Puis tu sais, le fait de savoir qu'on a une évaluation, un diagnostic, ça aide une partie pour ça, mais au niveau professionnel, de se dire hey, on peut avoir un profil atypique, on peut papillonner, on peut avoir une vie professionnelle un peu plus bohème tout en étant très professionnel et rigoureux dans sa façon de travailler. Fait que de défaire ça puis de reconstruire autour de vraiment ce qui nous allume puis ce qui nous anime. Puis là, ben, avec le temps qui a filé, merci Germaine du temps que tu es, Fran. Ça nous a fait passer à côté d'un point qu'on avait envie d'apporter qui était de parler de l'ikigai. Fait que qu'est-ce que tu veux, ça pour un autre épisode?
Ben, coudonc. Ben, bye, à la semaine prochaine, puis merci de nous avoir suivis dans notre chronologie, notre vie, puis on espère que ça crée de la résonance et du beau et du doux et de l'espoir.
Ouais. Donc, merci.
Puis merci de nous écrire, continuez à le faire.
À la prochaine!
Bye!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.